France Info.
C'est le procès d'une connivence, d'une collusion qui existe parfois entre l'industrie et la médecine. En l'occurrence, on parle de pollution de l'air et d'un médecin accusé d'avoir menti devant une commission d'enquête du Sénat. Cet homme s'appelle Michel Aubier, pneumologue, ancien chef de service à l'hôpital Bichat à Paris, jugé parce qu'il y a 2 ans, lors de son témoignage au Sénat, il disait n'avoir aucun lien avec les acteurs économiques du secteur alors qu'il était en fait salarié du groupe Total depuis 1997. Nathanaël Charbonnier, vous suivez ce procès pour France Info. Les débats sur le fond de l'affaire n'ont pas encore commencé.
On s'attendait à un débat éthique, on a eu droit à un débat juridique. Conséquence, dans un premier temps, le tribunal a dû mettre de côté les griefs reprochés à Michel Aubier pour se concentrer sur des questions de procédure. Et dans le domaine, la défense du médecin a pas mal de cartouches dans son sac, car pour elle, il y a des trous dans la coque. Et de monter au créneau pour contester la constitutionnalité de l'affaire et de s'en prendre à l'impartialité du Sénat et de la commission qui a entendu son client en avril 2015, de chipoter sur la notion d'expert qui n'est pas un témoin et qui par conséquent a le droit de se tromper. Et la défense de poursuivre encore sur le même mode, le Sénat, les partis civils, l'APHP dont dépendait le professeur Aubier n'ont rien à faire dans ce tribunal. La forme, à croire, s'indigne le procureur de la République, que l'on cherche à retarder et retarder encore la tenue de ce procès. Michel Aubier, de son côté, suit les débats sans rien dire. Il est assis dans son costume bleu avec sa cravate à pois blanc. Il a le visage fermé, les mains jointes et crispées. Finalement, lui aussi semble trouver le temps long. Au tribunal correctionnel de Paris, Nathanaël Charbonnier, France Info.
Anne Chailleux est en ligne avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de Formindep, c'est une association de professionnels de santé et de patients qui lutte contre les conflits d'intérêts. Alors ce procès, ça représente exactement votre combat contre la collusion entre des médecins et des industriels aux dépens de la santé publique, c'est ça ?
Oui, c'est notre combat, effectivement, et oui et non à la fois, parce que des cas comme ceux de Michel Aubier sont quand même un peu le sommet de l'iceberg, et nous on essaie de combattre non seulement les Michel Aubier, mais également l'influence au quotidien qui a tout autant d'effets sanitaires malheureusement, mais de façon beaucoup plus subtile et plus diffuse,
ouais.
Et malheureusement qui n'ira pas jusqu'au tribunal en général.
Alors en l'occurrence, comment des médecins se retrouvent-ils dans de telles situations ? Est-ce que c'est l'appât du gain avant tout ?
Non, je pense que c'est plus une question d'acculturation, c'est-à-dire que des toutes premières années des études de médecine, les étudiants en médecine sont confrontés très régulièrement à des commerciaux, des firmes de santé, et finissent par confondre le langage promotionnel, publicitaire, avec l'information. Ils finissent par considérer que recevoir des avantages de l'industrie de santé, c'est finalement quelque chose de normal. Il faut savoir qu'en 2015, la Cour des comptes a compté que 84% des médecins avaient reçu un avantage des firmes de santé. Donc c'est vraiment généralisé. Cette acceptation, cette norme de recevoir des avantages souvent minimes, hein, c'est de l'ordre d'un déjeuner.
Oui.
Mais on sait que même un déjeuner, ça influence les prescriptions. Donc même un déjeuner, ça devrait déjà poser question sur le plan éthique aux médecins. Et malheureusement, on est très loin de cette prise de conscience. Ensuite, vous avez un deuxième niveau qui est un peu plus, je dirais, problématique, qui est celui des professeurs d'université principalement. Rien qu'aux hôpitaux de Paris, par exemple, vous avez une centaine de ces professeurs qui cumulent plus de 50 000 euros de rémunération des firmes en sus de leur salaire de fonctionnaire.
Ah oui.
Donc là, ça commence à devenir déjà un autre degré, on va dire, de lien d'intérêt. Et ça finit par devenir vraiment légalement problématique quand ces liens d'intérêt se cumulent avec des missions de service public, par exemple de l'expertise, ou dans le cas de Michel Aubier, bien sûr, je ne suis pas juriste, je ne vais pas pouvoir trancher si légalement c'est répréhensible, mais en tout cas, on ne peut pas simultanément être expert sanitaire pour une agence publique et en même temps être rémunéré par une des firmes de santé, par exemple, pour promouvoir un de ses produits.
Et donc, ce n'est pas uniquement un problème d'éthique, pas uniquement un problème de morale, ça va parfois plus loin que ça.
Bien entendu, c'est avant tout, il faut avant tout le considérer comme un problème sanitaire, parce que ça a vraiment des conséquences sanitaires sur la santé des populations. Et donc, il faut vraiment le traiter comme un risque sanitaire, et c'est ce qu'il est. Lorsqu'on vient de voir le réquisitoire du parquet dans l'affaire Mediator, oui. On a des sommes qui dépassent le million d'euros pour certains de ces professeurs de médecine qui sont mis en examen. Et donc, il est assez effrayant de voir, en 2017, notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui affirme encore que les liens d'intérêt sont le gage de la compétence des experts. Je pense qu'il y a vraiment un gros, gros problème de prise de conscience. Et à mesure que l'affaire Mediator s'éloigne dans le temps, malheureusement, on est revenu en arrière, on observe une certaine régression dans la vigilance vis-à-vis des liens et des conflits d'intérêts.
Oui, et vous dites que les industriels donc viennent carrément faire leur marché dans les écoles de médecine, grosso modo.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour ce qui est des firmes de santé, les autres secteurs économiques vont recruter des experts déjà médiatiques qui sont déjà établis. Mais pour les firmes de santé, ça se passe à l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les firmes de santé qui vont bâtir la carrière des futurs experts. Et donc, on va les prendre au berceau, quasiment, les étudiants, et puis on va les aider, par exemple, avec des bourses de thèse, on va les aider à publier leur thèse, on va les inviter à un congrès, on va faire tout pour soutenir leur carrière, leur obtenir des postes ou des stages intéressants. Et petit à petit, les liens vont devenir de plus en plus étroits, au point où le médecin, finalement, ne les voit plus, ces liens, et n'a plus aucune conscience des problèmes qu'ils peuvent poser sur son indépendance.
Alors, quelle action pouvez-vous mener avec vos adhérents, médecins et patients, pour lutter justement contre ces conflits d'intérêts ?
Alors, c'est un problème tellement diffus que c'est effectivement très difficile à combattre. Donc, nous, on s'adresse principalement, on essaie de sensibiliser déjà donc les futurs médecins dans les facs de médecine. On intervient pour les former avant qu'ils soient trop formatés par ces contacts répétés avec les commerciaux des firmes de santé. On fait également de la vulgarisation via notre site internet notamment, sur les techniques d'influence qui sont utilisées par les firmes pour manipuler et les professionnels de santé et les patients également, avec par exemple des campagnes de sensibilisation aux maladies qui sont trompeuses. Et on essaie surtout de demander des comptes aux agences de santé pour qu'elles assurent leurs fonctions avec l'indépendance puis la qualité scientifique qui sont requises pour protéger la santé publique.
Et donc beaucoup de travail à faire si je vous suis. Merci beaucoup Anne Chailleux, présidente de l'association Formindep. Antoine Verlin à la Bourse de Paris. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hercine, bonsoir à tous.